Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi à 18h. Je suis ravi de vous retrouver en partie avec l'équipe qui est avec moi en plateau et qu'ils sont en pleine forme tous les deux, Arnaud et Lola. Dans un instant, notre invité live va nous rejoindre dans ce plateau. Notre invité principal, on l'aura au téléphone, il ne peut pas être avec nous. C'est Stéphane Rothenberg, animateur de Pékin Express, à l'occasion de la diffusion d'une émission spéciale vendredi prochain. Mais pour l'instant, on déroule le sommaire en compagnie de notre équipe. Le club évidemment au rendez-vous avec toutes les rubriques habituelles que vous connaissez pour votre plus grand plaisir. Lola nous emmènera sur les traces de l'Iliade et l'Odyssée. Et ben oui, à l'occasion d'une page spéciale que nous allons ouvrir avec Arnaud, à l'occasion de la diffusion de Ulysse 31 sur manga. Et on va se faire plaisir. Et puis moi, je suis allé exhumer deux pépites de notre séquence du téléspectateur, notamment une grande émission de variété à vie de recherche. Voilà pour le rendez-vous avec Arnaud et Lola. Merci d'être là tous les deux.
Bonjour.
Je suis content de vous avoir
bonjour,
avec
Lola,
moi.
Bonjour Alexandre.
Ça va bien?
Bah ouais, ça va, ça va.
On est au Pataquet, tout à l'heure, page spéciale consacrée à Ulysse 31, le dessin animé culte de toute une génération. Dans un instant, Stéphane Rothenberg sera avec nous. Mais auparavant, on va commencer avec notre Téléclub 7. Vous savez, on aime bien les parcourir un peu les programmes télé. Et alors, quand j'ai retrouvé cette bande-annonce des programmes de TF1, je me suis dit quand même... toute ressemblance avec les programmes d'une autre chaîne serait purement fortuite. Ouais. Alors, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer,
qu'est-ce
Arnaud.
Qu'est-ce qui nous a retrouvés, hein.
Mais regardons, je vous emmène sur TF1. On est dans les années 80. Et voilà comment on annonçait les programmes sur TF1. Regardez.
Santa Barbara qui me dira. Ravage sur le Pacifique. Le soleil tape et les coupleurs. Quand les gros sous mènent la danse, les maîtres chanteurs perdent patience. Lutte d'influence et rivalité, un cocktail californien au goût de TNT. Santa Barbara, des aventures périlleuses sur la Une.
Bonjour à tous. Tous les maris n'ont pas la bosse du ménage. De là à engager une extra parce que madame est en voyage, gare à la scène de ménage avec Marc et Sophie à 19h30. Cacher le butin de son cambriolage dans l'appartement d'un honnête homme, voilà la bonne planque. Et pour payer les pots cassés, Bourville, champion du rire, à 20h40. S'il y a eu viol et puis meurtre, il y a eu aussi erreur sur l'assassin. Le commissaire Moulin aux prises avec sa conscience et une nouvelle enquête pour Yves Régnier, Clément Michu. Un hanneton sur le dos, avec également Gilles Segal, un film réalisé par Claude Boissol à 22h50. Mais tout de suite, un nouvel épisode d'Agence sous risque.
Mais alors, mon Arnaud, oui. Je trouve que ça fait furieusement penser aux bandes-annonces de la 5.
Ah bah oui, on était très proches à cette époque-là, on devait être en 87 là à peu près. Et forcément, il y a cette guerre avec l'arrivée de la 5 qui monte en puissance.
C'est la même chose, à la fois les jeux de mots, le semainier, etc.
Tu devrais tester la coiffure de
Carole Varenne.
C'est dingue.
La semaine prochaine, j'essaye.
Ouais.
Mais ils se sont tout simplement mis au même niveau en essayant d'agrémenter avec du sexe, de la violence des séries américaines et un peu de tout. Quoi. Donc, là, voilà.
On regarde un peu ce qui se fait en matière d'habillage et puis ça donne cette espèce d'habillage-là de TF1 qui est évidemment si emblématique des années 80. Tout à l'heure, on se replongera dans une émission culte des années 80, Avis de recherche, avec Patrick Sabatier. On va vous montrer les trois génériques différents de l'émission. Vous allez voir, c'est une petite pépite. Mais auparavant, on se plonge dans l'actualité. Notre invité va être avec nous dans un instant au téléphone. Évidemment, c'est l'émission d'aventure par excellence de M6 depuis maintenant de très nombreuses années. Plus de 20 saisons au compteur de Pékin Express. Je vous propose tout de suite de nous replonger direction l'Asie cette année pour la nouvelle saison de Pékin Express. Voici ce qui vous attend si vous ne l'avez pas encore découvert.
On n'est pas là pour se caresser les muscles. Franchement, des finesses de ouf.
Les candidats ne pourront plus utiliser le GPS des voitures.
Vous n'aurez qu'une carte routière locale pour vous orienter.
Tac-tac-tac-tac.
Je comprends rien. Ça m'énerve.
C'est dépaysant par rapport au bureau. Hein.
Pékin Express au Royaume des Dragons. Saison inédite dès le jeudi 5 mars sur M6.
Et voilà, épisode spécial de Pékin Express qui va être diffusé donc dans deux jours sur M6. Un épisode où tout aurait pu bien se passer finalement. Mais la géopolitique et l'histoire des pays que traverse l'émission a rattrapé l'aventure Pékin Express à la faveur d'une grande manifestation citoyenne de la génération Z. En plein Népal. Bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Alexandre.
Je suis très heureux de parler avec vous. Alors on va au Népal et puis voilà, on pense que tout va bien se passer. Et d'un seul coup, ça percute l'enregistrement de l'émission. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, les candidats étaient en train de se disputer le passage en Chine au moment où ces événements surviennent.
Oui, oui, on était arrivé au Népal depuis quelques jours, on avait déjà fait quelques étapes. L'enjeu, on était à Katmandou, la capitale, et l'enjeu effectivement de cette étape, c'était de décrocher son passeport pour la Chine. Et donc, ben voilà, c'était une étape en ville, une étape de jeu avec des missions. Et à chaque fois qu'un candidat remportait une mission, qu'un binôme remportait une mission, et bien il récupérait son passeport pour la Chine. Ça, c'était la théorie. Mais effectivement, déjà depuis quelques jours, peut-être que, alors c'était au mois de septembre, hein, donc les autorités avaient décidé de supprimer les réseaux sociaux occidentaux, considérés être comme des choses de perversion classique de la jeunesse, donc les réseaux américains pour l'essentiel. Et du coup, il y avait beaucoup de tensions. Les gens se payaient, les candidats le savaient, hein, puisque les gens leur en parlaient, etc. Et puis, il y a eu des manifestations plus ou moins sporadiques qui ont été réprimées de manière extrêmement violente par les autorités. Et plutôt que de calmer les gens, ça les a complètement révoltés. Et on est dans la capitale, et forcément, c'est dans les capitales que ce genre de choses se jouent. Et au moment où on lance le départ, alors on parle au petit matin, on voit qu'il y a des petits barrages de gens, ça a l'air très calme. En fait, c'est fou, quand une situation part, eh bien, on la voit pas forcément venir, on la voit pas forcément dégénérer. On voit des petits barrages, tout ça, etc. Et puis après, effectivement, à peine on essaie de donner le départ de l'émission qu'il y a des affrontements terribles, vraiment très forts, entre les jeunes et la police.
Évidemment, vous avez une surveillance totale sur tous les candidats au fur et à mesure des étapes. Mais est-ce que ces nouvelles règles que vous avez mises en place cette année, c'est-à-dire un retour aux sources de Pékin Express, ont pu compliquer un petit peu les choses pour regrouper tous vos participants ?
Alors, l'étape n'était pas encore lancée. Moi, j'avais pris un peu d'avance. En fait, on avait donné le départ. Mais moi, dans une étape en ville où je peux prendre du retard, on fait ce qu'on appelle un faux départ. C'est-à-dire que je donne un départ, on arrête les candidats pour quelques minutes pour que je puisse prendre de l'avance. Et ensuite, on les relâche. Donc moi, j'étais parti. J'avais rejoint l'équipe du premier jeu. Donc, j'étais plus avec les candidats. Et au moment, effectivement, le responsable de la sécurité, justement, il a eu peur de voir tout le monde dans tous les sens dans la ville. Il a vu que ça tournait pas bien. C'était pas encore très chaud, mais il a eu un bon feeling. Il a dit non, mais on lance pas, on arrête tout, on attend de voir si ça se calme ou pas. Et ça s'est pas calmé du tout, ça a vraiment dégénéré. Peut-être que vous avez vu les images, c'était en septembre, où effectivement, ils ont mis le feu au Parlement, ils ont mis le feu à la maison du Premier ministre, ils ont tapé les députés. Les députés se sont sauvés en hélicoptère, mais en s'agrippant à des filins. Enfin, c'était ils ont caillassé toutes les concessions automobiles parce qu'elles appartenaient plus ou moins à des membres du gouvernement qu'ils considéraient comme corrompus. Donc ça a brillé comme ça. Mais la décision du responsable de sécurité qui dit « Non, moi je lâche pas, je vais pas commencer à aller partir à la pêche des candidats à droite à gauche dans la ville alors que ça tape de partout, que les manifestants, qu'il y a des coups de feu, hein, la police tirait à balles réelles. » Donc c'est vrai que ce qui était embêtant, c'est qu'on était quand même séparés. C'est-à-dire qu'il y avait les candidats et les caméramans à un endroit, les équipes de jeu disséminées dans la ville, le gros de la troupe logistique était dans notre hôtel de base. Ils ont mis le feu à un hôtel, un gros Hilton de 30 étages, donc ça c'était quand même très spectaculaire. Et nous on était dans le deuxième gros hôtel du truc, qui appartenait aussi, ça on ne savait pas, à un membre du gouvernement. Donc pareil, on ne pouvait plus revenir dans notre hôtel parce qu'on se disait... Il va être pris pour cible lui aussi. Donc, il y a eu un moment où, en fait, on a d'abord pris la décision d'attendre que ça se calme. On s'est caché, chacun où on était. Et en fait, on entendait. Alors, moi, je suis un peu sorti, j'ai fait un petit plateau, etc. Parce que le responsable de sécurité n'était pas là, je n'ai pu le faire. Il m'aurait grondé s'il m'avait vu le faire. Mais on entendait des coups de feu, on entendait des gens qui criaient, on voyait de la fumée partout, on voyait des hélicoptères, on voyait des trucs. On a appris que l'aéroport était fermé. Et ça, pour nous, c'était très mauvais signe, parce que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas partir. On a bougé. Et au départ, une fois que le responsable de sécurité a dit « on attend la nuit tombée, normalement, la nuit, ça va aller. Donc, pendant la nuit, on va pouvoir se regrouper. » Et en fait, il a eu peur des pillages, des choses comme ça. Donc, on a attendu, en fait, le petit matin, et pas la nuit, pour se regrouper. Et là, on a vu, on a sorti le nez dehors, et on a vu, on a traversé la ville, on s'est tous regroupés, et on a vu Katmandou, qu'on connaissait bien, hein, dans un état qui avait été... Alors, les manifestants étaient très, très gentils avec nous. Hein. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, vous n'en veux pas, filmez ce qui se passe, c'est scandaleux, etc. Oui. Donc, on ne s'est pas senti en danger. Par contre, quand on entend des coups de feu dans tous les sens, nous, on ne voulait pas se retrouver au milieu, parce qu'en revanche, les affrontements étaient vraiment... c'est fou, parce que, franchement, les Népalais, c'est une... nation, c'est des gens très zen, plutôt bouddhistes, etc. Mais alors quand ils s'énervent, ils s'énervent.
Et c'est vrai qu'on le sait, notamment à la faveur des manifestations qui peuvent avoir lieu dans tous les pays du monde, y compris le nôtre, que la crainte des autorités dans n'importe quel pays, c'est quand c'est la jeunesse qui monte au créneau et qui manifeste, parce que ça peut prendre des proportions dramatiques, surtout si on répond. Et là, ce qu'on voit dans l'épisode, c'est qu'en plus, y a eu des morts. Enfin, ça s'est très très mal passé. C'était pas simplement une génération qui dégénère en violence. Il y a eu des morts sur place.
Ouais. Il y a eu des morts, la police, en se disant que ça allait les calmer, a tiré, et en fait, ça ne calmait pas du tout. Alors, c'était assez impressionnant. Et puis surtout, on sentait la peur chez les autorités, parce qu'effectivement, ils ont tapé à la fois des bâtiments. Mais c'était très ciblé, c'est-à-dire que les commerçants n'ont pas été pillés. Il n'y avait pas des choses comme ça où
vous avez
des gens qui profitaient. Ouais, tu avais des gens qui profitaient du chaos pour aller piller des boutiques, etc. C'était au début, j'ai cru que ça allait être ça, puis en fait, j'ai compris que c'était très localisé. C'était les concessionnaires de bagnoles, les endroits de gouvernement, donc le Parlement était en flammes, vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que... Alors, c'est quand même impressionnant, hein, quand on s'en tirait dans tous les sens et qu'il y a des gens qui se tabassent dans tous les sens, mais moi, en tous les cas, une fois que j'avais pigé ça, il faut toujours être prudent quand même, mais... J'ai vu qu'on ne serait pas pris à partie. J'ai compris qu'on ne serait pas pris à partie. Maintenant, le problème, c'est que tu as les autorités qui sont tendues, extrêmement agressives, et donc on pouvait éventuellement se faire arrêter, etc. Donc voilà. Et puis, quand ils voyaient les caméras, forcément, ils pouvaient se dire qu'on était du news, et que forcément, on aurait pu être pris à partie par les autorités. C'était très spécial.
Comme ça vous est déjà arrivé, je crois, il y a quelques années en Inde, où vous avez été arrêté. Ouais. Où les équipes ont été accusées, certaines parties d'équipes accusées, je crois, d'espionnage et bloquées sur place pendant des dizaines de jours.
Oui, on a été arrêtés au total dans l'histoire de Pékin Express 4 fois par les autorités, 2 fois en Chine, 1 fois en Inde, et donc maintenant au Népal. Bon, là, on n'a pas été arrêtés, mais on a été bloqués. Ensuite, on a aussi été bloqués pour des conditions climatiques, avec des typhons, avec la mousson. Enfin, régulièrement, le programme est confronté à des aléas. On sait toujours avec Pékin que ça ne va pas se passer comme prévu, ça ne se passe jamais complètement comme prévu, mais c'est souvent beaucoup plus anodin, des autorités qui refusent un tournage qu'elles avaient accepté à un moment ou à un autre, des babioles, alors beaucoup, beaucoup de problèmes climatiques, parce que ça, c'est dur à prévoir. Mais effectivement, quand on avait été en Égypte, on était parti, le printemps arabe commençait à démarrer, mais on était parti juste avant, et puis bien sûr, la Covid. On a été le dernier tournage au monde à s'arrêter, on était en Éthiopie, et tout s'arrêtait, tous les tournages s'arrêtaient. Et il y a un tournage HBO, je crois, qui est en Afrique du Sud. Et nous, c'était très compliqué parce qu'on était paumés en Éthiopie. Donc, pour revenir à un aéroport, alors que tous les aéroports commençaient à fermer. Et on a été le dernier avion à se poser à Orly. Paris était déjà complètement vide. L'aéroport était vide. C'est très, très étrange. Mais on est un peu... je ne dis pas qu'on est rodés parce que c'est toujours bizarre. Mais c'est vrai que les équipes de sécurité... elles savent faire, c'est les anciens des services des forces spéciales françaises. Hein. Donc, c'est des anciens militaires. Ce sont des gens qui sont très rodés, qui ne sont pas des gens du genre à paniquer facilement parce qu'ils ont vu bien pire dans leur vie. Mais du coup, c'est vrai que c'est très rassurant, nous, d'avoir notre équipe de sécurité parce qu'on sent que les gars, ils ont du sang-froid, ils regardent, ils jauge la situation. Et c'est vrai que nous, c'est très précieux. Moi, le premier Pékin Express, quand on m'a présenté une équipe de sécurité, je n'avais pas l'habitude. Normalement, sur les programmes, au pire, on a des vigiles devant les portes, hein, comme dans les magasins. Mais on n'a pas des gars des anciens militaires qui gèrent la sécurité. Donc au début, j'étais surpris et j'ai compris à quel point c'était utile dans Pékin Express d'avoir... Des gens de ce niveau pour assurer la sécurité de tout ce joli monde. On est quand même 140, hein, donc on est nombreux. Hein.
Mais surtout, quand là, on est sur des événements de grande ampleur, mais parfois, il y a des événements qui sont plus anodins, qui paraissent plus anodins. Vous mentionniez la première étape, la première saison de Pékin Express. Moi, je me souviens de cette scène hallucinante de 2 candidats qui sont sur la route en Russie et qui se font arrêter par des... Enfin, qui pensent tomber sur la bonne voiture en autostop et qui tombent sur des gens qui, je crois, sont des Tchétchènes et qui leur montrent leur armement dans le coffre arrière de la voiture.
Ouais. Oui, oui, bah alors, c'est vrai qu'il y a des pays, on n'a pas trop l'habitude, mais il y a des pays où les gens prennent la route armée. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi beaucoup de pays d'Amérique latine, quelques pays en Afrique. Et c'est vrai que, ça, même si c'est interdit, hein, c'est toujours spécial. Donc c'est vrai que quand on réalise qu'en ouvrant le coffre, qu'il y a des armes, bon, bah, c'est vrai qu'il est, il est plus prudent de pas monter à bord. Voilà, donc après, les candidats, pour aller plus vite, ils sont peut-être capables, parce que les gars étaient très sympas pour le coup. Hein.
Oui, oui.
C'était pas du tout agressif, mais c'était des gars, c'était des Tchétchènes qui partaient en Tchétchénie avec des armes, donc c'était bien ce qu'ils allaient faire. Donc c'était, mais pour le coup, c'était très sympa. Mais c'est vrai qu'ensuite, bon voilà, faut avoir un peu de feeling. Il y avait aussi, nous, le principal sujet qu'on peut avoir, c'est effectivement des choses beaucoup plus banales, des gens qui prennent les candidats en stop alors qu'ils sont un peu bourrés, des trucs comme ça, où là, ils ont les candidats, on les briefe avant, on leur explique. Il y a effectivement les caméramans qui sont là. Si t'as des gens qui sont un peu alcoolisés ou un peu louches. Abandonne la voiture, c'est pas pour gagner une étape par rapport au risque. Donc ça, les candidats sont briefés. Effectivement, sur les choses beaucoup plus quotidiennes, beaucoup moins spectaculaires que ça, il faut être prudent quand on voyage, mais c'est vrai pour tous les voyageurs de la planète quand ils voyagent, hein, il faut avoir du bon sens, il faut être un peu prudent, il faut regarder, il faut, voilà, l'immense majorité des gens sont ultra cool, ultra sympathiques, prêts à aider, et puis t'as toujours des gens qui sont là, parfois un peu border, donc il faut les éviter. Mais là, on n'est pas. C'est vrai qu'on était sur quelque chose d'un peu singulier. On a été bloqué. L'aéroport a mis 3 jours à rouvrir. Donc, finalement, l'objectif des candidats, c'était de gagner leur passeport pour la Chine. Ben, ils sont tous arrivés en Chine, puisqu'on s'est tous barrés dès qu'on a pu. Donc, donc voilà. Et on a dû, à la hâte, écrire une fin d'épisode, enfin un épisode supplémentaire en Chine, parce qu'il nous manquait du coup un épisode. Donc, ça a été un peu le bordel. Mais pendant qu'on était, qu'on a été regroupés, on a attendu que l'aéroport réouvre. C'est toujours très spécial. Et du coup, on a gentiment, avec l'équipe qui était déjà en Chine, qui avait déjà une équipe qui avait pris de l'avance, on a commencé à improviser un épisode qui va être génial d'ailleurs sur le plan artistique, mais qui sur le plan de la route et des paysages était un peu, voilà, on tournait un peu autour d'une ville parce qu'on n'avait pas tellement de possibilités, des autorisations, etc. Mais c'est ça réclame aussi ça, Pékin, c'est un peu d'impro.
Vous avez toujours le même plaisir à animer cette émission, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, plus de 20 saisons, et on sent que vous avez toujours l'air de vous amuser quand on vous voit à chaque étape, toujours le même plaisir.
Ouais, alors je reconnais qu'à chaque fois qu'on rentre, on se dit, c'est quand même un truc. Hein. Donc c'est vrai que parfois, à la fin d'une saison, on se dit, bon, on va peut-être faire une pause d'un ou deux ans avant de repartir. Et puis ensuite, c'est un petit peu comme les, je pense, les marins qui font le tour du monde, etc., et qui reviennent, ils sont bien contents de retrouver leurs proches, puis ils n'ont plus envie de remonter sur leur bateau, et puis après, et puis au bout de quelques mois, ils regardent la prochaine route. Donc nous, c'est un peu ça. Là, on est en train de partir en repérage pour la prochaine saison. Les castings, d'ailleurs, sont ouverts. On a déjà plus de 20 000 candidatures, mais les castings sont ouverts. Il ne faut pas hésiter sur M6 Plus pour s'engager. Mais là, on est. Généralement, on finit rincé. Et content de rentrer, et puis l'envie repart assez vite.
Souvent, quand avant de vous laisser repartir, mais souvent quand on regarde ces émissions d'aventure, il y a la team Koh-Lanta et la team Pékin Express, et on se dit, bon, Koh-Lanta, en général, c'est pour les hardcore qui se sentent capables de ne pas manger pendant 40 jours, et je me sens un peu plus d'appoint pour aller sur Pékin Express, parce que finalement, ça reste encadré, on dort chez l'habitant le soir, mais enfin, ça reste quand même encadré. Est-ce que c'est pas quand même un peu une légende autour de Pékin Express et qu'en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine encore?
Non, alors, tout le monde peut le faire, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas le physique qui fera la différence. On peut être plus âgé que la moyenne, plus gros que la moyenne, moins sportif que la moyenne et gagner Pékin Express. Ça n'est pas, c'est éprouvant, mais. Franchement, on a quelqu'un qui a 70 ans qui a gagné Pékin Express. Alors, son partenaire en avait 19.
Oui.
Mais on peut gagner Pékin Express parce que les épreuves physiques, elles existent, elles sont très dures, mais elles ne sont jamais éliminatoires. Elles permettent de gagner des bonus, une victoire d'étape, etc. Mais on ne peut jamais perdre. On ne peut jamais éliminer avec un trek. Les treks de Pékin Express ne sont jamais en fin d'étape. Ils sont toujours en début, ils sont toujours sur des moments stratégiques, on gagne un peu de sous, tout ça, mais c'est toujours un bonus, mais c'est jamais définitif. En revanche, c'est très clairement la cohésion du binôme et le moral. Ça se joue dans la tête et dans l'entente. quelqu'un et donc c'est ça la clé. Les binômes les plus cohérents, les plus avec la meilleure cohésion et avec la plus grande capacité à surmonter les difficultés va l'emporter sur le binôme plus fort. Donc oui, ça c'est sûr que c'est plus facile, mais nous on a toujours voulu être le programme des anti-héros. Oui. Je dis pas ça, peut-être qu'au tout début c'était pas le cas. D'ailleurs, la première saison, il n'y a que des gens super fités, etc. Oh, et progressivement, on y a rajouté de l'humour. On y a rajouté, en prenant des gens drôles, en prenant des gens qui avaient beaucoup de recul, qui se moquaient d'eux-mêmes, etc. Et on y a rajouté, effectivement, ce côté anti-héros. Alors, pas vraiment en contrepoint de Koh-Lanta, parce que il peut y avoir des programmes culinaires en toutes les chaînes, il peut y avoir des programmes de chansons en toutes les chaînes, c'est pas tellement le sujet, mais c'est vrai que ça permettait vraiment de nous positionner différemment dans le monde entier. Pékin Express est plutôt c'est vrai moins physique, plus drôle que Survivor, parce que Koh-Lanta, oui, ça s'appelle comme ça en France, et dans le monde entier ça s'appelle Survivor. Et c'est vrai que on est peut-être un peu moins premier degré, mais les deux programmes sont parmi les plus anciens aujourd'hui de la télévision. C'est incroyable, hein, parce que c'est quand même du dépassement de soi, de l'aventure, de l'exotisme. Et ça, c'est leur ADN commun. D'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes techniques qui font les deux programmes. Il y a beaucoup de gens qui mon caméraman il fait les deux, donc il fait alors quand il y a deux Koh-Lanta et deux Pékin il peut pas, parce qu'il y a des années où il y a deux Koh-Lanta et deux Pékin par an, mais j'ai mon caméraman par exemple, celui qui fait mes gros plans, il fait tous les jeux de Koh-Lanta, il fait tous les conseils de Koh-Lanta depuis 20, eux c'est un peu plus long, ça doit faire 24 ans ou 25 ans,
oui.
Donc c'est voilà, il y a souvent, on a au moins 30% du staff en commun, comme quoi il y a quand même un ADN.
Et juste pour finir, dernière question, maintenant qu'il y a des animateurs sur la chaîne qui peuvent éventuellement, occasionnellement, vous remplacer, candidat dans Pékin Express, c'est pour quand, Stéphane Rothenberg? On a envie de vous voir tester la course, le stop et tout,
ouais,
ça.
Je sais que j'y arriverai, hein, franchement. Hein. Je dis vraiment, tout le monde peut y arriver. Après, est-ce que je serai bon? J'en sais rien, mais je sais que je peux y arriver. Mais c'est vrai que... me privez pas de mon job tout de suite. Je vais encore le garder quelques temps.
Non, c'était juste pour l'occasion, pour une saison, parce qu'il y a des saisons All-Star,
oui.
Et j'adorerais vous voir dans ce rôle-là.
Si tu laisses ta place une fois, ça peut donner des idées.
Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout, je voudrais terminer avec ça, parce que on va vous laisser et on vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Mais je voulais vous dire, c'était pas du tout la question de vous laisser votre place. Et au contraire,
j'étais ravi. J'ai pris ça très bien, pas de problème. Hein.
J'étais ravi. Non, mais j'étais vraiment ravi de vous avoir avec nous, parce que je trouve que vous êtes parmi les animateurs en télévision aujourd'hui. Vous êtes un animateur qui est à part, parce que vous savez vous rendre indispensable dans vos concepts, tout en vous faisant oublier. Dans les concepts au profit de l'histoire.
Ah,
plus
c'est
grand.
Important, oui. Et c'est leur aventure, que ce soit Top Chef ou Pékin, c'est pas à moi d'être en avant, c'est la course des candidats et c'est l'épreuve Top Chef. Ça, c'est effectivement, c'est mon credo, c'est de faire le job, mais de laisser la lumière à ceux qui bossent.
Et en même temps, on ne peut pas imaginer ces concepts sans vous. Et je trouve que vous le faites avec une très grande sincérité et honnêteté. Et je trouve que vous apportez évidemment beaucoup à vos concepts depuis maintenant plus de 25 ans qu'on vous voit. L'interview vous va aussi très bien. Je crois que vous avez vu sur Match TV faire des grands entretiens.
Oui, c'est vrai, il y a des années. Oui.
À une certaine époque. Vrai. En tout cas, vous êtes un animateur comme on aimerait en voir plus. C'est-à-dire qu'il s'oublie au profit des concepts et des invités qui sont autour d'eux. Et j'étais vraiment très heureux de vous avoir avec nous, même par téléphone. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir un jour avec nous ici pour revenir un peu sur ce parcours, parce que vous êtes un animateur comme je les aime particulièrement à la télévision française.
Avec grand plaisir, on fera ça.
Merci beaucoup,
Stéphane.
Merci pour
vos compliments, ça me fait très plaisir.
Je vous en prie, et puis rendez-vous donc vendredi sur M6 et sur M6+ pour cet épisode hors norme de Pékin Express.
Merci Stéphane. À bientôt.
On va continuer cette émission, évidemment, du club. Dans un instant, on va accueillir notre invité qui va nous rejoindre pour se prêter à ce petit jeu. Mais on va ouvrir, avant, une petite page pour la laisser rentrer sur la séquence du téléspectateur. Vous allez regarder quand même, c'est intriguant quand même de voir comment ça se passe, hein, cette manif de la génération Z en plein cœur de...
Oui.
Toi qui viens d'Asie, en plus, il n'y a pas longtemps. Donc,
Puis je trouve ça hyper important, dans des programmes qui peuvent être regardés par tout le monde, d'intégrer, mais ici, évidemment, sans le vouloir, mais d'intégrer des pages de l'histoire qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ça donne une actualité folle et du coup, ça donne une intensité à ce qu'on vit et ce qu'ont pu vivre les candidats qui est génial.
Ah, vous allez voir, c'est assez intense. C'est assez intense. Puis évidemment, ces candidats qui n'étaient pas prévus pour être en Chine et qui d'un seul coup, ils vont pour une journée avant d'être éliminés et de retourner en France. C'est assez violent. Voilà, Pékin Express, c'est vendredi soir. Et je remercie les équipes de M6 qui nous ont permis de faire cette émission. On va accueillir notre invité pour le live de tout à l'heure dans un instant. La transition va se faire au son de notre séquence du téléspectateur, première du nom, avec une petite pépite que j'ai retrouvée. Merci Arnaud de me l'avoir aussi dégotée. Je l'avais en tête, je l'avais en souvenir. Cette chanson, vous allez voir, je pense que quand vous allez l'entendre, ça va être efficace au possible. C'est un petit programme, tu vas peut-être nous en parler dans un instant.
Ouais, avec plaisir.
Voici le générique et on va accueillir pendant ce temps-là Romy.
Prends une image d'Épinal en lettres capitales. Un petit singe original s'y cache en diagonale.
Et ben voilà. Oh. Et que la lumière fût. Regardez-moi, le plateau est rempli. Nos invités sont arrivés. Clac, le petit couche. On va parler, je ne sais pas de quoi. Devinez en fonction de ce qu'il y a sur le plateau. Un petit mot avant qu'on présente notre invité sur les devinettes d'Épinal qu'on vient de voir.
Ouais.
Je dis, c'est très intriguant comme pastille. C'était quoi alors?
Ah bah c'était tout simplement, comme son nom l'indique, basé sur les images d'Épinal qu'on connaît tous. Et il y a un objet ou un visage ou un animal caché dans une image. Et il y avait une image arrêtée. Les enfants avaient quelques secondes pour retrouver ce personnage. Donc souvent c'était dans un arbre ou de travers ou alors il fallait vraiment. Et puis bah le petit singe passé qu'on voit dans le générique là, et puis nous donner la fin du chrono et on devait trouver la réponse. Voilà, et ça permettait aux enfants d'avoir une écoute active devant la télé et puis de jouer quoi tout simplement.
Ça intervenait quand? C'est-à-dire que c'était entre deux dessins animés, entre deux...
C'était une séquence dans Récréa 2 à part entière. Okay. qui passait, qui s'appelait Les Devinettes d'Épinal.
Génial.
Avec la voix d'Evelyne Grandjean qui était une grande comédienne qui était souvent à l'Académie des Neufs notamment. Et voilà, ouais, c'était vachement bien. La musique est chantée par...
Ah. Lionel Leroy?
Non, on va en parler un petit peu
tout à l'heure.
Non, c'était Richard DeWitt.
Richard DeWitt, exactement.
Le chanteur d'Il était une fois.
Il était une fois, vous savez, j'ai encore rêvé d'elle.
Voilà. Ah oui.
Voilà. C'est ça parle tout de suite. Voilà, c'est notre séquence du téléspectateur. Il y en aura une autre tout à l'heure sur une émission culte des années 80. Dans un instant, on va voir notre page spéciale consacrée à ce dessin animé qui revient sur la chaîne Manga, qui s'appelle Ulysse 31. Mais je veux vous présenter notre invité qui est avec nous. C'est la seule invitée en plateau cette semaine, mais alors vous allez voir. On est sur du level, elle est avec nous. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous avait présenté une autre jeune artiste, Anna Maria Giachin, qui était venue et qui nous avait bluffé avec sa voix si particulière et si singulière. Eh bien, c'est grâce à Anna Maria que j'ai rencontré Romy. Et vous allez voir, alors là, en termes de signature vocale, on est sur quelqu'un qui a une identité propre, comme vous en entendez peu. Bonjour Romy.
Bonjour, merci
Comment
beaucoup,
ça va?
Pour l'invitation, bah ça va très bien, et vous?
Bah on va très bien, on va très très bien. Tu vas nous faire une petite chanson tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Mais ça marche bien pour toi en ce moment sur les réseaux, tout se passe bien?
Tout se passe bien, après j'espère qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver prochainement, mais il n'y a pas de raison.
On a envie de t'entendre avec un EP, un album, quelque chose à toi aussi. une scène, ça a commencé déjà, tu fais des petites scènes.
Oui.
Tu vas nous en parler tout à l'heure, mais vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore entendu, vous allez voir que cette voix... c'est une voix vraiment particulière et à part, et j'espère que vous allez l'aimer, comme moi je l'ai découvert et je l'ai adoré aussi, cette voix qui est absolument magnifique. Alors, vous verrez, elle chante super bien, elle est hyper sympa. Bon, elle a commencé à nous dire, mon père serait ravi en voyant tout ce qu'il y a sur cette table, donc c'est là qu'on prend un bon coup de vieux, mais il faut être honnête. Et on va commencer avec une première pastille vidéo qui, spontanément, pourrait laisser penser qu'il n'y a rien à voir avec Ulysse 31.
Ah oui,
mais tu vas nous expliquer pourquoi.
Mais il y a tout à voir parce que tout simplement, c'était donc Ulysse 31 est arrivé en octobre 81 à la télévision sur FR3 dans la tranche FR3 jeunesse, donc anciennement France 3. Et il y avait un jingle qui annonçait ça. C'était donc l'ouverture de la plage horaire pour les enfants. Et l'épisode était découpé en 5 minutes. Et donc c'était à la fois génial, mais à la fois frustrant parce qu'à 20h, ça s'arrêtait pile. Et donc il y avait ce petit jingle là qui lançait tout, qui annonçait tout et qu'on connaît si on l'a vu.
Et qu'on va regarder tout de suite. Voilà comment ça commençait avant de voir Ulysse 31. Eh ouais, 1981, Romy. Eh oui, c'est pas récent. On n'était même pas loin d'un projet tous les deux. Et ça a marqué évidemment toute une génération. Il faut savoir que les enfants pouvaient, on va y revenir, mais découvrir certains dessins animés le soir avant 20h. Il y avait une tranche horaire qui manquait de 5 minutes. Et en fait, les enfants découvraient un bout d'épisode. Voilà. Qu'on découvrait comme Inspecteur Gadget ou d'autres dessins animés. Et le samedi, on avait l'épisode entièrement monté de 26 minutes qu'on pouvait redécouvrir. Et ça, c'était absolument génial. Alors, on va revenir dans un instant sur Ulysse 31. Mais pour comprendre Ulysse 31, il faut comprendre d'où ça vient. Oh là là. Et c'est là que Lola intervient parce que, évidemment, vous la connaissez, elle sur les réseaux sociaux, elle vous recommande des ouvrages, de la lecture, bande dessinée, roman et tout ce qu'on a envie de découvrir grâce à toi. Et on s'est dit, là, pour une fois, on va vous mettre en commun tous les deux et travailler en commun avec, bah évidemment, le registre de base de Ulysse 31, c'est l'Iliade et l'Odyssée.
Absolument. J'ai dû repartir dans des souvenirs, mais d'il y a très très longtemps. Parce que, évidemment, on connaît Homère, on connaît l'Iliade, on connaît l'Odyssée, parce que ce sont des ouvrages qui sont très 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 souvent étudiés quand on est au collège. Mmh. On suit les histoires. Évidemment, du coup, il y a des adaptations qui existent ici et qui font vivre justement ces œuvres-là. Mais j'ai l'impression que c'est souvent des œuvres qu'on croise très rapidement, dont on ne se souvient pas trop et qu'on n'a pas l'occasion de redécouvrir. Voilà, mais j'en ai parlé du coup autour de moi pour voir et c'était très flou. On a discuté de ça à table hier avec ma famille et puis c'était vraiment quelque chose. Ma mère était à fond en me racontant les histoires de Pénélope, etc. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez flou pour beaucoup de personnes qui l'ont vu il y a hyper longtemps. Du coup, je voulais faire un petit point sur évidemment ces deux ouvrages avec un angle particulier parce que en fait il faut savoir que ces deux ouvrages qui sont en fait deux poèmes fondateurs qui sont écrits en vers avec l'Iliade qui fait 16 000 vers qui est absolument colossal, qui a été composé entre 850 avant Jésus-Christ et 750 avant Jésus-Christ, et l'Odyssée qui arrive un tout petit peu après et qui lui fait 12 000 vers. Donc ce sont des poèmes fondateurs et j'en parle comme poèmes fondateurs parce que évidemment en fait ce qui est important ici en littérature c'est que c'est les bases de la littérature, c'est que c'est les bases d'une littérature qui va se construire avec des images, avec des héros, avec un schéma narratif. En fait, c'est ce qui a permis de construire ensuite toute la littérature qui vient après avec ce schéma narratif d'un héros qui rentre chez lui ou d'une guerre. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui ont été déterminés grâce à Homère et grâce à son écriture. Alors, pour résumer un peu les deux œuvres, l'Iliade, c'est la première qui a été écrite par Homère et qui va raconter la guerre de Troie. Donc, on va suivre Achille contre
avec
les...
Le
justement, à votre avis, je vais poser une question, à votre avis, où se trouve le passage sur le cheval de Troie? Est-ce que c'est dans l'Iliade qui raconte la guerre de Troie avec Achille ou est-ce que c'est dans l'Odyssée qui raconte le retour d'Ulysse?
J'aurais tendance à dire, si vous me posez la question, c'est que c'est pas là où on l'attend.
Ouais, je dirais l'Odyssée.
Allez, ouais, allez, moi aussi.
Exact, c'est dans l'Odyssée parce qu'on est certain, évidemment en lisant l'histoire de l'Iliade, qui est donc toute cette guerre de Troie avec Achille qui raconte en fait les dernières nuits, les derniers jours de cette immense bataille contre les Achéens et toute la Grèce qui sont venus attaquer évidemment ici Achille et son armée. Cet épisode du cheval de Troie n'est pas du tout là dans l'Iliade. En fait, il arrive dans l'Odyssée qui reprend plein d'épisodes de la guerre de Troie dans ce récit du retour d'Ulysse chez lui. Évidemment, pour revoir, on a cette idée en tête d'Ulysse qui revient voir Pénélope. Un voyage qui a duré 10 ans. 10 années de retour, à chaque fois arrêté. On a l'impression d'avoir des problèmes de transport aujourd'hui.
C'est Pékin Express un petit peu aussi.
C'est exactement ça, c'est Pékin Express, où il va rencontrer évidemment le Cyclope, Circé, Calypso, enfin voilà, toute cette mythologie qu'on connaît. Et donc, ce qui est hyper intéressant ici, il y a plein d'œuvres qui ont découlé, évidemment. Mmh. Voilà, cet épisode avec les sirènes et des récits qui ont déterminé aussi l'art qui est arrivé après, avec des tableaux, avec ici ces vases qui sont absolument magnifiques et plein de tableaux qui ont découlé qui sont absolument magnifiques. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment deux axes, l'Iliade et l'Odyssée. Combattre et revenir. L'idée, c'est vraiment de montrer une palette extraordinaire de ce que peuvent être des héros. Avec ce héros Ulysse qui a été représenté, ici évidemment dans Ulysse 31, mais qui a été représenté de mille manières. C'est absolument extraordinaire de voir à quel point ensuite ça s'est greffé sur des chansons qu'on a pu connaître, sur des dessins animés, sur des adaptations. Et donc, ce sont deux récits fondateurs, mais vraiment qui ont déterminé la littérature d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper intéressant, comme on parle ici beaucoup de littérature, de revenir un peu à la base de cette littérature et ses poèmes fondateurs et ses récits fondateurs pour comprendre un peu plus d'où vient notre littérature, d'où viennent nos récits et pourquoi, comment est-ce qu'on a réussi à parler de guerre, comment est-ce qu'on a réussi à parler de colère, la colère d'Achille, de deuil, de compassion, de bataille et évidemment, par exemple, d'attente et de fidélité pour Pénélope, d'amour. C'est tout ça qui va déterminer la littérature qu'on a aujourd'hui.
Alors pour celles et ceux qui se demandent ce qui se passe quand Ulysse revient, je vous conseille une série qui a été faite pour Arte, qui date d'il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Odysseus, et qui commence au moment où Ulysse arrive à Ithaque et retrouve Pénélope. Et évidemment, la question, c'est de se dire qu'est-ce qui va devenir. Et en fait, vous allez voir la construction, la fabrication, tout simplement, d'un dictateur, et que Ulysse n'est plus le héros qu'on pensait qu'il était, mais qu'il devient un tyran pour sa ville et pour son île et pour sa femme et pour ses proches.
Et Odysseus, qui est du coup le nom grec d'Ulysse et qui a donné lieu à l'Odyssée. Petite anecdote.
C'est bien, c'est petit cours de langue ancienne. Et évidemment, se replonger dedans. Et quel meilleur moyen de le faire que pour intéresser les enfants que de le faire par le prisme des dessins animés,
bien sûr.
De le faire par le prisme de la science-fiction aussi. Ouais. Et pour que vous ayez bien en tête ce que vient de dire Lola à travers l'histoire d'Ulysse, voici ce que ça donne quand l'histoire vous est racontée et narrée, non plus dans la Grèce antique, mais au 31e siècle. Regardez.
Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes.
Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire.
Vivant, vous êtes vivant.
Sois bien avec ton cœur. Voilà. Bon. Et ben voilà, et ça part de là. Alors, qui est derrière Ulysse 31 ?
Écoute, pas mal de personnes.
Pas mal de personnes.
Ouais, il y a eu. C'est un projet français fait par monsieur Jean Chalopin, qui créera aussi les Cités d'Or, qui créera plein de choses, Inspecteur Gadget, etc., avec sa société qui s'appellera Dick pour la suite.
Et, d'où le look d'Ulysse.
D'où le look, oui, voilà.
Qui ressemble fortement à Jean Chalopin.
Qui est tiré des cheveux longs et de sa barbe rousse qu'il arborait à l'époque. Et puis, ce grand générique aussi fait la part des choses, parce qu'il est inoubliable, il fait partie des génériques comme Candy ou Capitaine Flamme ou Goldorak qu'on connaît. Ça a donné naissance à plein de disques.
Ouais,
il y a les CD, là je vous ai apporté.
Pierre en a devant lui aussi.
Voilà, ça c'est mon disque quand j'étais petit, il y a mon nom écrit dessus. Et bien sûr, il y a eu plusieurs génériques, donc on va pas tous vous les passer, il y en a eu vraiment beaucoup. Mais ça a tellement cartonné que ils se sont dit, tiens, exploitons le filon, faisons des livres disques. Alors on peut suivre l'histoire tout en écoutant, en tournant les pages. La petite particularité de ce dessin animé aussi, c'est que la chanson était la même dans tous les pays dans lesquels il a été diffusé. Donc là, je vous ai apporté deux, trois petits trucs sympatoches. Vous avez notamment là le disque, alors que je ne dise pas de bêtises, ça c'est le disque italien, qui reprend donc le même visuel, et le disque espagnol, qui reprend aussi le Ulysses 31, je sais pas comment on dit, 31.
Et vous avez tous les génériques sur la collection Télé 80, si vous ne l'avez pas, voilà, je vous le redis, parce que c'est une collection qu'on soutient souvent.
Mais oui,
et puis il y a aussi sur le
vinyle. Il y a les 33 tours, donc les 33 tours pour les gens un peu plus jeunes, ce sont donc bien sûr des longues versions avec toutes les chansons qu'on peut entendre, avec les musiques d'ambiance, parce qu'il y a eu aussi un gros travail de Raïm Saban et de Shuki Levy autour de cela, donc... On peut dire aussi qu'Ulysse 31, c'était Nono qui a beaucoup fait les choses. On en parlera peut-être juste après.
Bah tiens, on va peut-être regarder. Vu qu'on en a beaucoup parlé de Nono, je vais vous en parler après parce qu'il fallait ce petit entrée aussi pour séduire les enfants. Parce que c'est vrai que l'histoire peut paraître un peu, pas austère, mais enfin lourde un petit peu et compliquée. Et je pense que la prochaine, c'est quelque chose qui est dédié à Nono. Tu veux nous en parler avant ?
Alors non, la prochaine n'est pas dédiée à Nono si on a bien respecté l'ordre des chiffres que j'avais
envoyé. Bah, alors tant mieux, ça va. Eh bien écoute, je suis rassuré.
La prochaine, c'était... si on est bon dans la numéro 3 qu'on devait envoyer, c'est à vous de deviner en quelle langue. Voilà.
Ah oui, j'adore.
C'est un extrait dans une autre langue. Voilà, je vous en dis pas plus.
Regardez.
Dine soldi fede dal Mario Blanc.
Nono, mais éperment.
Oui, c'est un pion, tu sais ma Thémis.
Thémis. Nel anche che è Zekin!
Ma che ne è ben?
Telemac!
Temis! Mais pétas au roi Ribrama!
Oh là là. Ah, mais alors, mais Pétaz ou Brami ou Arna,
c'est pas une langue de l'Est, non, pas du tout.
Ah, bah, de l'Ouest plutôt.
Bah, oui. De l'Ouest.
De l'Ouest plutôt.
De l'Ouest parisien.
De l'Ouest parisien.
Bon, on vous donne la réponse.
Ouais,
allez.
C'est du breton.
C'est du breton.
Ouais.
Absolument, bravo.
Incroyable.
Bravo.
Donc, il y a eu un. Alors, ça a été doublé en breton. Et voilà, je vous ai trouvé un petit extrait de dans ma la pépite. Il y a même eu un générique en breton, voilà, donc qui était. Qui reprend donc la même mélodie, mais chantée en breton, avec le speech qui est fait au début, là, quand on a vu le 31e siècle, etc., dit par une femme. Donc voilà, c'est assez rarissime pour être souligné. On a.
Oh, c'est pas mal, hein.
Donc on avait la version bretonne, voilà, qui est assez surprenante, effectivement. Il n'y a pas eu que ça.
C'est des Playmobil sur le.
Oui, alors la pochette est extravagante.
La pochette en Playmobil.
Il y a un Playmobil.
Sur réaliste, ça n'a rien à voir.
Si, ça représente Yakari qui est en face B en breton et lui également. Donc ouais, c'était passé donc, sur FR3 Braise, TV Braise, vous savez, c'est Brest. Mm-hmm. Et donc voilà, Kenavo, les Bretons, merci d'avoir eu cette version assez étrange d'Ulysse 31.
Et alors, ce que disait Lola tout à l'heure, pour revenir au dessin animé, c'est vrai que chaque épisode reprend des thématiques qu'on a entendues dans l'Iliade et l'Odyssée, en tout cas dans cette aventure d'Ulysse, avec ses grands personnages, pour trouver une conclusion au 26e épisode. Mais c'est vrai qu'il y a cette grande voix alors, de Jean Topard, qu'on entend dans le générique, qui était une grande figure de la télévision et du théâtre, puisqu'il a joué notamment dans Rocambole à la télévision. Ça a été un grand narrateur. C'est aussi le narrateur de Rémi sans famille, si on se souvient bien, le dessin animé qui a fait
le documentaire des Cités d'Or.
Et le documentaire des Cités d'Or, évidemment. Et alors, ce qui est drôle, c'est que là, dans l'extrait qu'on a vu de... Le collier fait quand même très fortement penser à la racine de Jace et les conquérants de la lumière.
Oui, bah c'est l'épisode en fait de Chronos où ils sont bloqués dans le temps et le dieu du temps qui les fait vieillir. En fait, ils sont bloqués sur une plateforme et ça, chaque saison s'enchaîne avec le printemps, été, automne, hiver et ils se voient grandir comme ça. Ils sont bloqués. Donc effectivement, il y avait une recherche vraiment intense, on va dire. C'était pas fait au hasard. Comme tu disais, les îles devenaient des planètes, les navires devenaient des vaisseaux spatiaux.
Tu ne vois pas qu'on dirait la racine de Jace ?
Bah, ça ressemble, oui. De toute façon, ça sera la même création plus tard.
C'est Georges Lepin.
Il y a des échos, effectivement, à ce qui pourra devenir après d'autres dessins animés réadaptés.
Et lui ?
Alors lui, bah, voilà.
Alors lui, c'est qui ?
Il est hyper mignon.
Il est trop chou. Alors, il est trop chou.
C'est celui qui m'a valu mon surnom que je détestais quand j'étais gamin parce qu'on m'appelait Arnaud Nono. Donc c'était, tu vois, le truc qui renaît assez. Bon, maintenant, ça va, j'apprécie quand on m'appelle Nono. Mais c'était un personnage qui a tiré son épingle du jeu parce que, bien évidemment, il n'est pas présent dans l'Iliade ni dans l'Odyssée. Mais ce personnage qui devait apporter du comique a été designé et inventé par René Borg qui a fait Clémentine, qui était au Shadok aussi avant. Et bien sûr, ce personnage a apporté énormément de popularité parce que tous les enfants le voulaient en jouer. Et donc, ça a donné toute cette gamme aussi qui était prévue. Et, donc, il y a le Nono en ferraille. Vous avez tous les personnages qui ont été adaptés. Alors, j'en prends un. Là, vous avez Thémis, qui était donc avec toute une gamme. Et chaque pays aussi a eu sa façon de faire et de sortir les jouets. L'Odysseus, donc, comme tu en parlais, c'est le nom du vaisseau d'Ulysse. Mmh. Vous l'avez en boîte devant vous. Et puis, il y a la version 3 parties d'Ulysse 31, parce que le vaisseau aussi pouvait soit s'éclater, soit revenir à un vaisseau plus puissant pour combattre les dieux de l'Olympe.
C'est le seul jour de ma vie où je vais peut-être sombrer dans l'illégalité. Hein.
Je ne vous garantis pas que...
Non, parce qu'il faut quand même que les gens comprennent que ces jouets sont extrêmement rares. Et que c'est très compliqué de les avoir dans les boîtes d'origine et tout ça.
Ouais.
Quand il disait tout à l'heure que c'est vrai que ça vaut son pesant
de cacahuètes. J'ai eu la chance de commencer très tôt à rassembler ces objets, vraiment très tôt, et d'en trouver pas mal. Et donc là, c'est pour le bonheur de tous de les rassembler, c'est pour que ça vive aussi.
Il faut que ça vive, et on est ravis que tu nous en fasses profiter chaque vendredi, mercredi dans cette émission, le vendredi quand on enregistre, parce que ça nous fait du bien aussi de se replonger dans ces souvenirs-là. Et on parlait de Nono, il y a eu une chanson, il y a eu un clip, on va le redécouvrir tout de suite. Et on va se faire plaisir ou pas, ça c'est à vous de décider. On verra si Romy nous dit qu'elle veut faire une cover derrière. Elle pourra, évidemment. Regardons le clip de Nono. Il faut le préciser parce qu'on a parlé de Jean Chalopin, de Bernard Derriès qui sont à la manette. Je voudrais vraiment qu'on mentionne aussi les époux Wallmark, Nina Wallmark et son mari qui ont vraiment travaillé à la collaboration sur
Nina Wallmark. Dessin
animé. Nina Wallmark et qui a travaillé notamment sur un dessin animé qui viendra plus tard qui s'appelle Les Mondes Engloutis.
Les Mondes Engloutis, absolument. Ah, voilà.
Et là, on a le CD.
On a le disque d'époque. Donc vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis à l'honneur la maison d'édition de disques.
Juste pour expliquer aux celles et ceux qui ne connaissent pas, Rahim Saban a été un très grand producteur de musique qui a, dans les années 70, venu d'Israël et est venu avec un jeune garçon qui s'appelait Noam, on l'a déjà eu dans cette émission, qui va chanter le générique de Goldorak. Il va produire énormément de génériques pour la télévision et puis il va devenir ensuite un producteur, il va partir aux États-Unis et il va devenir un grand producteur. Et dans les années 80, il va repérer une série sur les antennes japonaises qui s'appelle Bioman et qu'il va acheter et ça va devenir une franchise américaine de plus de 30 saisons puisqu'il va en faire les Power Rangers.
Il va l'adapter.
Ça va devenir évidemment quelque chose de très singulier dans le paysage audiovisuel américain.
Et on soupçonne fortement Rahim Saban de chanter lui-même le générique en déguisant sa voix.
Ouais, c'est possible. Absolument. Le Nono, on pense que c'est lui qui est derrière. Ouais, voilà. Évidemment. Et puis une dernière petite pastille qu'on va découvrir avant une rareté à la fin de l'émission. Restez avec nous.
Ouais, peut-être pour préciser, ce clip-là était fait avec la même équipe pour certaines personnes du dessin animé, mais il ne fait pas partie à l'époque de l'édition DVD ou cassette. Donc c'est vraiment une rareté, ça passait en interlude sur la 3 et il fallait vraiment être là pour l'enregistrer et le choper, quoi. Donc là, c'est aussi une petite pépite très sympathique de voir.
Merci moi Arnaud, mon Nono, d'avoir ramené sa dernière petite pastille qu'on va découvrir.
Encore une rareté.
On pensait déjà aux personnes en situation de handicap, et notamment les sourds et les malentendants. Et voici ce que ça donnait quand on voulait suivre Ulysse 31, mais que malheureusement, on ne pouvait pas forcément bien saisir tout ce qui se passait à l'écran. Regardez.
Hé, hey, Nono, tu n'as pas terminé ta réparation ?
Ah là là, arrête de tourner comme ça, ça m'énerve, ça m'énerve !
Quelle pièce est en panne? Tu le sais au moins?
il faut vraiment casser. Accélère. Allez, vas-y, accélère.
Accélère.
Et voilà.
Ouais, c'est quand même assez fou. Hein,
de, ah, c'est dingue de dire qu'il y avait ça aussi à la télévision, ouais, et qu'on avait accès à tout ça. Quoi, donc,
ouais, c'était avant le procédé Antiope qui après s'est généralisé. Et donc là, effectivement, on avait pensé aussi, il y avait un créneau pour les sourds et les malentendants, avec un petit sigle dans les programmes TV. Alors, pareil, il a fait la coupe de pas mal de programmes de télé. Donc il y avait un petit sigle avec une oreille pour montrer qu'il y avait cette possibilité pour les sourds et les malentendants de suivre. Donc voilà, il y avait, bon, j'ai apporté un télépoche et un télé 7 jours. Il y a quand même eu des. C'est rare qu'un programme décide de faire une en fait, sur un dessin animé. C'est pas arrivé souvent. Quoi.
Non, jamais. Et dans les années 70, il y a Paris Match qui avait fait la une avec Goldorak. Mais voilà.
Absolument. Et Télé 7 jours, on a fait pas mal. Ouais. Il y avait eu La Bataille des Planètes ou Dr. Snuggles. Mais pas Il était une fois l'espace aussi. Mais là, voilà, c'était vraiment une nouveauté incroyable. Et c'était salué par la critique. Voilà, tout le monde a adoré. Les profs reprenaient ça forcément pour faire lire les passages d'Homère dans le texte. Et, c'est une aventure incroyable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de produits dérivés. Je vous ai apporté les gants de toilette Ulysse 31 si vous avez un petit ressentez le besoin de faire quelque chose. Et puis les bobs. Alors avant, ça, c'était un bob que j'avais quand j'étais gamin. Il y a la version fille pour Lola.
Lola
t'es pas obligé de la porter, Lola. Mais bon, voilà. C'était
si, Lola
tu veux faire comme ça. Et donc, on le fait à deux. Alors, t'es prête?
Oui, plusieurs.
Voilà, allez, il y avait la. Je pense qu'on est du plus bel appareil.
Comme quoi, voilà. Comme quoi, il y a tête à chapeau et tête à chapeau.
Voilà. Bon, ça va, on a fait notre bonne action. Voilà. Il y a eu les albums d'images, il y a eu plein de choses. Donc voilà, Ulysse 31, merci, ça existe encore aujourd'hui. Ça revient sur manga. Le générique chanté par Lionel Leroy, on en parlera peut-être un tout petit peu par la
suite. Ouais, Lionel Leroy qui a été une grande figure, si vous connaissez le générique de Starsky Hutch, de L'Homme qui tombe à pic, de toutes ces séries-là. Quoique L'Homme qui tombe à pic, c'est pas une bonne idée parce que c'était pas lui.
C'était pas lui, mais.
C'était son producteur qui a repris.
C'était Raïm Saban.
Pour raconter l'histoire que je trouve très drôle, Lionel Leroy en avait marre de faire des génériques. Il a dit à son producteur, j'en ai marre, je m'en vais. Le producteur lui a dit, je vais te montrer que je peux continuer à exploiter le nom sans toi. Ouais. Il a gardé le pseudonyme qu'il lui avait donné, Lionel Leroy, et il a chanté le générique lui-même. Voilà, donc c'est très sympa. Et après, Lionel Leroy va devenir, sous son patronyme, Yves Martin, qui était son nom d'origine, va travailler beaucoup pour la télévision. Chacun du match, j'ai des frissons, voilà. Je claque des dents, je monte le son. Et c'est peut-être chacun fait ce qui lui plaît. Bah, il en faisait partie.
C'est la voix aiguë qu'on entend dans le refrain.
Dans le refrain, il a beaucoup collaboré aussi avec Sheila pendant de très très nombreuses années. Dont il était le mari, évidemment. On va revenir dessus. Sur Lionel Leroy à la fin de cette émission dans quelques minutes, avec une autre rareté concernant Ulysse 31 pour finir l'émission, restez avec nous. Mais je me tourne cette fois-ci vers celle qui ne comprend rien à ce qui se passe dans cette émission depuis tout à l'heure, mais qu'on est ravis quand même d'avoir avec nous, c'est Romy qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, c'était vraiment un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Dans un instant, on va te montrer d'autres choses très bizarres. Parce que je vois que j'ai un peu perturbé mon cher Nico avec le conducteur, avec des vidéos qui auraient dû être lancées, mais je voulais vraiment qu'on se tourne vers toi. Je disais, jeune talent qu'on découvre sur les réseaux sociaux, tu as commencé toi aussi comme Anna Maria qu'on recevait dans une école de comédie musicale, c'est ça?
Ah, j'ai commencé bien plus tôt.
Bien plus tôt.
Ah oui, je commençais bien plus tôt. J'étais un petit nourrisson. Je dormais pas, vraiment, ma mère, elle n'en pouvait plus. Et en fait, elle m'a mis des albums de musique classique. Et du jour au lendemain, j'ai fait mes nuits, mais totalement. Et du coup, très rapidement, quand j'ai eu 2 ans et demi, ils m'ont inscrite à l'éveil musical. Et là, c'était plus, bon, je faisais pas vraiment de musique, mais je tapais sur les instruments, etc. Puis je me suis mise au piano. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à chanter dans des chorales à l'école. Mes grands-parents, à chaque Noël, chaque anniversaire, on créait des spectacles avec eux. Donc on faisait des petits extraits de comédie musicale ou on reprenait des films connus comme La Mélodie du Bonheur. On faisait les petites mises en scène, etc. Donc ça a un peu commencé comme ça. Et puis je faisais de la danse à l'époque. Et puis j'ai dû arrêter la danse. J'ai eu un problème au pied. Et en fait, c'est là où... Bah, quand tu peux plus rien faire, c'est là où le chant a pris vraiment une grosse dimension. Puis c'est là où j'ai commencé les cours de chant. J'avais 13 ans. J'ai fait mes premiers concerts. C'était horrible au début, hein. J'étais très stressée. J'étais quelqu'un de très timide à l'époque. Et du coup, la scène, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment ouverte sur le monde qui m'entoure. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais à deux doigts du malaise. Hein.
Ouais. Alors maintenant ?
Bah, maintenant, il n'y a pas de problème.
Il n'y a plus de problème.
Mais c'est vrai que c'est chouette. Moi, je vous conseille à tout le monde de commencer la scène, surtout si vous êtes un peu timide, que vous osez pas parler en classe, lever la main, etc. La scène, c'est... Puis... Maintenant, on m'arrête plus, hein, dès que je commence à parler.
Elle nous prévient déjà qu'elle va plus s'arrêter. Pour l'instant, aujourd'hui, effectivement, on te découvre sur les réseaux avec des covers. Mais ça te... T'as pas envie, enfin, de nous présenter ton univers à toi et tes propres chansons ?
Alors, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Mes amis, ma famille, tout le temps, ils me demandent... Encore hier, j'étais au resto avec des amis, ils m'ont encore posé la question. Déjà, c'est pas évident de trouver son propre univers sur ce qui se fait pas. Parce que si je fais exactement la même chose que ce qui se fait aujourd'hui, je vais pas du tout me démarquer. Je sais pas si j'ai aujourd'hui trouvé exactement le petit truc pour me différencier.
Ton petit truc en plus.
Ouais, je sais pas. C'est la question que je me pose depuis début 2026. Est-ce que j'ai trouvé ce petit truc ou pas ? Ou est-ce que le grain de ma voix fera tout ou pas ? Je sais pas. C'est pas évident. Puis quand on est seul aussi, enfin, je suis pas dans une maison de disques, j'ai pas de producteur, j'ai personne. Donc c'est vrai que c'est pas évident de... tout seul, de se dire est-ce que je prends la bonne direction ou pas. Enfin, quand t'es pas entouré pour produire tes musiques, c'est pas...
C'est quand même une signature.
Oui, oui. Enfin, mais c'est pas évident. Enfin voilà, je suis pas ingé son, j'essaye sur mon petit logiciel, sur mon Mac, de faire des musiques, mais...
C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Donc,
c'est pas facile, et puis c'est vertigineux de se livrer avec ses textes.
Oui.
Ça, déjà, on sent que c'est compliqué, tu vois, donc...
Bah, c'est comme un journal intime. Enfin, moi, quand j'écris une chanson, c'est parce qu'il vient de se passer quelque chose sur l'instant T. Et du coup, c'est vrai que c'est comme si on se met à nu. Enfin, voilà, c'est vraiment, on ouvre quelque chose d'hyper intime. Mais j'ai envie de le faire. Donc là, je suis en train vraiment de me former pour les logiciels. Mais ça prend du temps. Il faut avoir le temps de le faire. Il faut se dégager du temps.
Bon, enfin, s'en dégager du temps, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes une jeune femme très occupée. Elle a beaucoup d'activités. Mais je pense que quand vous allez l'entendre, vous allez comprendre que, en tout cas, c'est sûr qu'en termes de signature, tu parlais d'avoir peur de faire des choses qui n'existent pas ou qui existent ailleurs. Là, on est tranquille. Il y a une signature, il y a une signature très particulière que vous allez découvrir et qu'on va entendre dans un instant. Et je te remercie de remplir le petit jeu du live parce que c'est pas un moment toujours très très forcément facile comme ça au dépoté. En attendant, tu te produis très régulièrement aussi sur scène. Vous êtes deux à vous produire sur scène avec un pianiste qui t'accompagne en mode diva sur scène à chanter des grands standards.
Ou pas ? Alors, on a monté ce groupe l'année dernière, enfin ce duo piano-voix. Parce que je faisais régulièrement des concerts dans des bars, des restos ou dans des salles. Sauf que moi, je ne suis pas pianiste. Je fais un petit peu, je pianote, mais je suis vite limitée. Et un jour, je lui ai dit, toi, tu es super bon musicien, viens, on fait quelque chose. Lui, c'est un batteur de base, mais en fait, il joue très, très bien de tous les instruments. Donc, je lui ai dit, c'est le moment. Et en fait, on tourne régulièrement. Et puis, on a fait un concert dans un théâtre en janvier. Donc, c'était vraiment... C'est vraiment chouette de voir que bah, ça évolue de ce côté-là aussi. Quoi.
Et on va t'entendre dans un instant. Tu vas nous interpréter un titre que tu as accepté de nous chanter en direct dans cette émission.
J'ai hésité hein, sur le choix. Hein.
T'as hésité. T'as hésité. Ah et quand on entend sa voix, on a envie de lui proposer plein de trucs, vous allez voir. J'espère que tu tiens prête. On a essayé. On va te donner toute la latitude pour l'écouter. Et j'espère qu'un jour, évidemment, on va entendre tes propres créations. Avant toute chose, tiens, juste pour se replonger, parce qu'on parle de musique et de chansons, une petite pastille pour les grandes émissions de variété telles que ça existait, le temps de te préparer, de souffler tranquillement. Je vous remets dans les années 80, ça va faire plaisir peut-être à Arnaud, puis même à notre ami Fred qui est en régie. Je vous remets dans les années 80 avec trois pastilles de la même émission. L'idée, c'était, vous imaginez, de redécouvrir vos copains d'enfants quand vous êtes une star, mais des années plus tard. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des photos de classe, et puis les stars devaient reconnaître telle personne qui appelait au téléphone dans la semaine en disant « Ah bah oui, je m'en souviens, je m'appelle Martine, et j'ai très très bien connu Julien Clerc, et je serai là vendredi sur le plateau, puis c'était des surprises et fusions. » Ça s'appelait « Avis de recherche ». L'émission a eu plusieurs vies, et voici le premier générique d'Avis de recherche. On est dans les années 80, au début des années 80, 1980. Merci Arnaud, encore une fois, grâce à tes archives, on a pu retrouver ça. Regardez.
Il y a du soleil plein la télé.
Et alors, vous avez vu la photo de classe, donc vous imaginez, les stars étaient là en plateau, donc tu vas nous dire la star qui était là, c'était...
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu, non?
Non. Oui, bon, Aznavour.
C'était Michel Sardou.
Ah, Michel Sardou. Tout à fait. Michel Sardou, c'est génial.
Qui était là, ouais, et puis, bah, c'est un concept à chaque fois le plus simple, le plus génial, forcément adapté à la télé. Patrick Sabatier était dans les émissions de Christophe Izard au début, dans les Visiteurs du mercredi. Et très vite, il a voulu voler de ses propres ailes et proposer des concepts complètement nouveaux, comme ça, innovateurs à la télé. Et ça, retrouver une star, lui demander une photo de classe et faire venir les gens en les numérotant. Puis il y avait la surprise au téléphone.
Oui, enfin, chez Martine, je suis le numéro 14 sur la
voilà,
photo.
C'est ça, ouais. Et puis hop, tu viens. Et donc toute la semaine, il y avait donc, bah, un petit peu morcelé à la manière du Ulysse 31. Toute la semaine, il y avait des plateaux avec les gens qui appelaient. Et à la fin de le samedi soir, si je me souviens bien, il y avait donc tous les la grande émission de 20h30, où les amis venaient. Et puis il y avait même parfois les professeurs.
Exactement, c'était génial.
C'était
moi, j'adorais ça.
Vachement sympa, ouais.
Animé par Patrick Sabatier, l'émission a eu plusieurs vies et donc plusieurs génériques. Et le deuxième, moi, c'est celui que je préfère, qui est resté dans les mémoires. Regardez.
Ça va commencer, c'est décidé, c'est ça va commencer.
Rémi Grimbach. Alors, il y a quelques années, c'est Cyril Hanouna qui a essayé de le relancer sur C8, effectivement. Et Patrick Sabatier est arrivé sur C8, il n'y a eu que deux numéros. Mais voilà, malheureusement, c'est une télé, une autre télé. Et enfin, dernier générique, dernière vie pour la vie de recherche en 1990, avec un générique qui, là aussi, est un peu plus catchy. Mais je voulais qu'on les ait tous et puis qu'on ait un petit panorama de cette émission qui était vraiment très, très, très fun. Regardez. Voilà.
Donc Patrick Sabatier faisait à chaque fois attention à ce qu'il y ait un générique chanté et que son nom soit dans le générique prononcé aussi, donc pour que ça reste bien dans la tête des gens. Et il était aussi à la tête d'une autre émission qui s'appelait Porte Bonheur, qui était incontournable, dans laquelle donc il y avait une personne choisie par courrier, quelqu'un écrivant en disant lui c'est vraiment quelqu'un de très bien ou cette famille mérite, et on l'aidait comme ça. Et les caméras débarquaient en direct chez les gens et on leur offrait une voiture, un lave-vaisselle. Voilà, il y avait un boulanger, on leur a fait un nouveau four pour qu'ils puissent travailler. Enfin, c'était assez
dément. Il y a eu une autre émission qui a, pour le coup, parfois eu des répercussions pas très drôles, le jeu de la vérité, où absolument, les gens pouvaient appeler et poser des questions sans filtre aux invités et ils devaient répondre. Et ça a ruiné la carrière de Chantal Goya pendant des années parce qu'elle a un peu trop vite répondu aux critiques d'une institutrice. Elle a soupçonné que l'institutrice a été mandatée par la production pour la couler en direct. Ouais. Et donc elle s'est fâchée avec Patrick Sabatier pendant des années.
Ouais, ouais.
Et elle a eu une traversée du désert pendant très 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 longtemps. Elle a du mal à s'en remettre jusqu'au début des années 2000, qu'elle soit remise dans le goût du jour avec le film Abfab, où elle est redevenue à nouveau bankable.
Il y a eu Sophie Marceau aussi qui était... on la faisait passer pour une nunuche en fait. Et à chaque fois, il y avait des questions vraiment qui la prenaient pour une débile. Donc elle a failli quitter l'émission, pleurer en direct. Enfin, c'était un cauchemar. Il y avait aussi Marlène Jobert, un passage très drôle où beaucoup de personnes appelaient parce qu'elle était forcément très jolie, très attirante. Et à chaque fois, on lui demandait si elle couchait vraiment dans les films. Donc au bout d'un moment, elle en a eu un peu marre. Donc effectivement, il y a eu des happenings, comme on aurait dit aujourd'hui.
Évidemment, en tout cas, voilà, Avis de Recherche, qui a été une des grandes émissions des années 80 et dans lesquelles on avait envie de se replonger. On parlait de porte-bonheur, on va écouter notre porte-bonheur à nous aujourd'hui, qui va nous interpréter ce titre en live, un titre de Muse, c'est ça?
C'est une reprise de Muse, oui.
Qui s'appelle Feeling Good,
c'est ça,
et qu'on va écouter tout de suite. Je vous laisse en compagnie de Romy.
It's flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Mm-hmm.
I feel it's all divine. You know how I feel, blossom on the trees. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Centaurs define, you know how I feel. Freedom is a mine. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Pa la pa la pa pa. Pam, pala pala pam. And I'm feeling good.
Merci.
Ah, c'est pas mal, hein. Bravo.
Merci.
Vous avez dit qu'on avait là une signature quand même qui est... pas ce qu'on entend partout, donc bravo, c'est magnifique.
Merci.
Tu sais très bien tout le bien que je pense de ton talent et tout ça, mais je pense qu'il y a des très 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 belles choses qui t'attendent et on croise les doigts en tant que chanteuse, en tant que comédienne, en tant que tout, parce que tu le mérites vraiment. Voilà, il y a un James Bond qui va se tourner bientôt, ce serait pas mal en ouverture de James Bond. Ce serait parfait. Bravo, bravo
merci
pour
beaucoup.
Ce talent et que j'étais ravi que tu puisses venir
bah, merci pour l'invitation,
chanter.
Ça me fait très plaisir.
Tu vas revenir chanter.
Il faut revenir, oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà. On va s'en reparler d'ici la fin de la saison avec grand plaisir. Et justement, il nous reste quelques secondes, quelques minutes avant la fin de la saison. On va te donner peut-être des idées de reprise avec notre dernière pastille de l'émission, le Solitube. On réhabilite des tubes du passé et on se fait plaisir justement en collant à l'univers Tulis 31. Voici le Solitube. Et le Solitube, bah, il est là. Il était là tout à l'heure avec Ulysse 31. Il est là avec ce chanteur Yves-Marie. Yves-Martin, pardon. Yves-Marie Morin, c'est un acteur de doublage. C'est le frère de Patrick Devers.
Oui.
Yves-Martin, qui est un grand chanteur et qui s'est dissimulé derrière le patronyme de Lionel Leroy pour chanter ses génériques, qui est l'un des plus beaux chanteurs de génériques vraiment qui a eu lieu
ouais.
Et qui a signé plein de titres.
En fait, c'est ça. Voilà. Il a une carrière de derrière le micro plutôt anonyme pour chanteurs de Goldorak, de Starsky Hutch. L'amour du risque, il en a fait plein. Et c'était aussi donc un interprète à part entière, sous son vrai nom, Yves Martin. Et donc là, bah, vous avez un petit florilège de 45 tours qu'il a sorti à l'époque. Ils sont aussi pas faciles à trouver parce que bah, ça n'a pas très bien marché.
Et tu les as
Donc voilà, j'en ai apporté quelques-uns. C'est lui aussi qui chantait le générique de Wonder Woman. Voilà.
Ouais.
Enfin, il en a fait plein. Mais en tant que chanteur... vraiment en son nom, bah, il a essayé de faire de la variété avec des textes. Ouais, c'était, il avait un nom, Eric Lang, je crois que ça
ah,
il s'appelait, mais c'était
si
lui, enfin bref. Et donc voilà, là je vous ai apporté donc le Solitube. J'avais envie de parler de celui-ci que j'aime beaucoup, mais tous les autres sont vraiment méritent d'être écoutés. C'était Cité de malheur.
Ah oui.
Voilà donc tu connais ouais donc le clip qui est passé dans Platine 45. Forcément, j'avais ça dans ma malle au trésor, donc on se le regarde un petit peu. Bah oui, on se
regarde. Regardez Yves Martin.
Ah.
Et voilà.
C'est vachement bien,
c'était voilà, de malheur. C'est vachement bien, c'était de malheur. Ça rend, alors, ça rend bien.
C'est daté, effectivement, années 80, on est en 84, mais ça mérite, ça gagne à être connu.
À être connu et
quoi, voix magnifique. Hein.
Et c'est
pas
magnifique.
Et c'est pas un solitude qu'on veut oublier, parce que le roi, bah, il nous manque beaucoup et on l'aime vraiment beaucoup.
C'est allé jusqu'en sortie de. Ça a connu le compact disque, donc c'est très dur à trouver si vous trouvez
c'est
ça.
C'est des deux titres.
Ouais, complètement fou. C'est en rapport avec celui-là, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Mais il y en a plein. Les Louise, c'est un peu plus rigolo. Là, qu'est-ce qu'on avait comme dit Lionel Richie. Enfin voilà, ça mériterait peut-être une sortie télé 80 si Christophe Renaud nous entend. Peut-être
Lionel Leroy spécial.
Ouais. Lionel Leroy spécial interprète. Voilà, c'est vachement sympa.
Je le conseille. On va fermer bientôt ces portes du club avec une dernière pépite concernant Ulysse 31 qu'on va lancer en guise de fin d'émission. Mais alors Arnaud, rappelle-nous, parce que ça c'est une pépite aussi. On parlait tout à l'heure de la diffusion en épisode du soir.
Ouais, voilà, donc vous savez que je numérise depuis des années maintenant tout un tas de choses. Je récupère des cassettes Betamax V2000 et VHS forcément. Si vous en avez, vous me les envoyez, vous me contactez. Et un jour je suis tombé sur ça, c'est-à-dire un passage enregistré à l'époque de Ulysse 31 et quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire que ça n'existe pas sur les Blu-ray, ça n'existe pas sur les DVD. C'est la mention à suivre, c'est-à-dire c'est une version qui durait que 5 minutes et vous allez voir, c'est coupé de façon comme ça.
Et ça vous crée la frustration. Vous allez découvrir, parce que ça, c'est super rare.
Très abrupt.
Et on terminera l'émission avec ça. Je voudrais remercier évidemment Stéphane Rothenberg qui fut notre invité dans la première partie de l'émission. Je rappelle Pékin Express vendredi soir. Et puis, je remercie vraiment Romini d'avoir été avec nous. Je suis ravi de vous l'avoir fait découvrir, cette nouvelle voix. Et voilà, on va reparler, mais tu vas revenir avant la fin de la saison pour un autre titre. Et on te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Je dis très sincèrement. Merci.
Et Marie, l'attachée de presse. Et
évidemment, Marie à M6 qui nous a permis de faire cette émission. Oui. Tu as tout à fait raison, mon cher Arnaud. Merci à tous. Merci Lola. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, il se passe encore plein de choses folles qui vont arriver. On recevra un groupe qui vient du Québec. Exprès, ils s'appellent les Costauds et vous allez voir, c'est des fous furieux qui font du rock et qui font du rock en reprenant les chansons de Dorothée. Vous allez voir, c'est complètement surréaliste. Ils viennent directement du Québec pour le concert de Dorothée à Paris. On les recevra la semaine prochaine. Merci à tous, merci à Nico qui était à la réalisation.
Merci Nico.
Et puis bah Ulysse 31 pour finir cette émission comme on l'a commencé. C'est parti, à très vite. Les portes du club se referment. On vous embrasse et à très vite.
Que les systèmes de secours permettront les
nous allons voir.
À travers les cieux, l'espace. Un vaisseau sans gars, Ulysse. Ulysse.